I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Benjay.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, tranquillement.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir, merci de m'avoir appelé.
Bah non, de rien, ça va être cool justement de revenir un peu sur ton parcours, puisque beaucoup de gens connaissent sans doute ta musique, peut-être aussi ton nom, peut-être moins ton parcours. Donc ça va être l'occasion justement de revenir sur tout ça. Comme je le fais d'accoutumer sur cette émission BPM, je vais faire un petit CV accéléré, justement le tien, avant qu'on revienne en détail justement sur ton parcours. Donc Benjay, producteur qui, depuis un peu moins de 10 ans, a composé pour Damso, Alonso, PLK, Chilla, Laylo ou encore Caballero et Jean Jass, et quelques autres, et qui vient de sortir cette année, en mars dernier, Glow, un EP entièrement produit par ses soins, avec le rappeur Haddock.
Et c'est exactement.
Très bien. Alors j'ai envie de commencer un peu dans le dur, mais je pense que ça va te faire sourire. Avec une de tes récentes prises de parole publiques sur Twitter, en l'occurrence, tu vois peut-être laquelle je fais référence.
Non, je sais pas.
Tu sais pas c'est laquelle.
Je t'en fais pas récemment.
Quand j'écoute les prods des albums mainstream qui viennent de sortir, et t'avais mis ce son.
On est enfermé dans une spirale infernale qui ne finira jamais.
T'étais fâché là.
Ouais, non. Je venais d'écouter quelques albums, j'ai dit non. Les gars, on est bloqués en 2016 là, c'est pas possible. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il y a certains artistes qui sont bloqués dans une recette, qui veulent juste pas changer. Les gars, réveillez-vous. Les gens vont vous remplacer là. Genre juste réveillez-vous, les gens commencent à en avoir marre. Mais bon, ça continue à fonctionner avec leur public. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils prennent pas énormément de risques. Mais on voit que déjà qu'au niveau des chiffres, ils sont sur la pente descendante. Donc moi les gars, je sais pas ce qu'ils attendent pour se renouveler, tu vois.
C'est frustrant pour toi en tant qu'auditeur, en tant que producteur, un peu tout ça à la fois, justement.
En fait, c'est... Je sais pas si c'est frustrant pour moi, parce que, bon, j'ai pas forcément essayé de travailler avec ces artistes-là, mais je trouve que c'est juste frustrant pour le rap français en général. Genre, on peut pas avoir autant de retard, parce que souvent, on dit, oui, comme quoi, on se rapproche des States, etc., mais... Pour moi, c'est peut-être avec la nouvelle génération qui arrive, mais avec certains artistes mainstream, on est clairement en retard, tu vois.
Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as à la fois des artistes qui sont encore... Tu travailles, pardon, et tu as travaillé avec des artistes qui sont à la fois, pour certains, des gros artistes mainstream et qui te font confiance et qui font confiance à d'autres producteurs pour aller chercher de nouvelles sonorités. On va justement en parler dans ton parcours. Et des artistes plus jeunes avec lesquels tu essayes peut-être des choses. Donc, ça va être l'occasion, justement, au travers de ton parcours qu'on va un peu décliner aujourd'hui, justement, de revenir un peu sur toutes ces idées qui traversent un peu ta créativité. On va revenir au tout début. Quels sont tes premiers souvenirs liés à la musique, Benjay ?
Premier souvenir lié à la musique. Alors là, c'est très compliqué parce que j'ai un peu baigné dedans, quoi. Mon père, il écoutait beaucoup de musique, fan de musique. Donc, franchement, mon premier souvenir lié à la musique, comme ça, là, je peux pas te le sortir.
Il y avait un genre en particulier qui était affectionné à la maison par ton père ou tes parents ?
Ouais, le jazz.
Ouais, ok.
Le jazz à fond. Le jazz manouche.
Ok.
Avec la guitare. Les guitares. Franchement, les Gypsy King, tout ça.
C'est marrant, ça.
Ouais, franchement, c'est, ça fait partie des premiers souvenirs vraiment que j'ai dans la musique. Mon père, il écoutait beaucoup ça. Donc, mon père, il avait beaucoup, beaucoup de vinyles. Ouais, mais un de mes premiers souvenirs dans la musique, c'est je pense, le tourne-disque avec les vinyles que mon père, il écoute. Et... Il doit avoir sûrement d'autres choses, mais c'est le premier truc qui me vient en tête.
Et de ces premiers souvenirs musicaux familiaux, est-ce que t'as un souvenir, toi, conscient, tu sais, dans ta jeunesse et peut-être à quel moment de ta jeunesse, où tu t'es dit, c'est cette musique-là que moi j'aime, tu vois, où t'as eu une prise de conscience comme ça?
Oh, alors là, Moi, j'ai toujours aimé le rap. Hein. J'ai toujours aimé le rap.
T'es né en quelle année, si c'est pas indiscret?
97.
Ok. Mm. Donc, effectivement, ouais, t'es d'une génération qui est née avec le rap entre les mains, entre les oreilles. Quoi, ouais.
C'est ça, directement. Donc, j'écoutais beaucoup la radio. Mm. J'écoutais beaucoup la radio, bah, vu que j'avais que ça. Moi, j'ai toujours été fan de musique. En vrai, de vrai, quand j'y repense, j'ai toujours été fan de musique, de technologie. J'ai toujours aimé bidouiller dans les machines. J'ouvrais les postes de radio, vous voyez, avec quoi à l'intérieur. Mon père, même les DVD, tout ce que tu veux, tout ce qui était en rapport avec la musique, j'étais déjà dedans. Donc, franchement, je pense que c'est en écoutant la radio, à force d'écouter, je ne sais pas, peut-être Skyrock, ou je ne sais pas. Je n'arrive pas à me souvenir comme ça, mais j'ai toujours kiffé ça.
Tu as grandi où?
J'ai grandi à Savigny-le-Temple dans le 77.
Ok. Ouais. Et dans ton entourage, il y avait des gens qui avaient cette même passion du bidouillage et de cette curiosité un peu nerd pour la musique ou pas?
À cet âge-là, non.
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 Quand tu dis à cet âge-là, c'est pendant l'adolescence, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Non, à cet âge-là, non. Moi, je faisais mon truc. je kiffais ma vie. Voilà. Et puis moi, je sortais pas trop parce que bon, mon père, il voulait pas trop que je sorte. Mm-hmm. Donc, il fallait bien que je m'occupe à la maison. Voilà quoi. Mon père était vraiment, vraiment en mode protecteur. Donc voilà, je cherchais des trucs à faire à la maison et c'est ça.
Et donc pour vaincre l'ennui, pour surpasser l'ennui, voilà, d'être adolescent chez toi.
Mais non, mais ça, là, je parle même pas de l'adolescence. Hein. Là, je parle de quand je suis tout petit.
Ah ouais,
je parle de Benji qui a à peine 6-7 ans, qui est déjà avec des tournevis en train de... en train de dévisser des postes radio.
Okay.
Et il est en train d'écouter la radio, faire en sorte que la radio elle fonctionne, à mettre une... Il n'y avait pas d'antenne, donc il fallait que je mette un truc en fer ou un truc pour que la radio elle fonctionne. Moi, c'est ça que j'ai les souvenirs. Mais j'étais pas du tout l'adolescence, là. Okay. J'étais vraiment petit.
Alors, quand est-ce que tu as commencé à... Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de commencer à créer ta musique, à produire ta musique?
Qu'est-ce qui m'a... À la base, moi, j'ai fait du conservatoire, déjà.
D'accord.
J'ai fait du conservatoire, mais le problème, c'était qu'au conservatoire, on ne t'enseigne pas forcément à composer, on t'enseigne à lire une partition.
Oui.
Et du coup, moi, j'ai fait de la guitare et du solfège. J'ai commencé petit. Je ne sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Mm-hmm. J'ai arrêté vers 15 ans. Donc, ouais, déjà, à ce moment-là, je faisais de la guitare. J'aimais bien faire ça, mais...
C'était
trop théorique. Mmh. Et voilà, même le solfège, ils m'ont viré carrément. Enfin, j'allais redoubler ma troisième année. Ils m'ont dit, c'est bon, toi, continue ta guitare si t'as envie. Et du coup, même, voilà, c'était même interdit, je crois, de faire de la guitare sans faire le solfège au conservatoire. Mais moi, ils m'avaient laissé tellement que je suivais rien.
T'étais pas assidu là-dessus, quoi. Ça te saoulait trop, peut-être. Ouais.
Vraiment, j'allais même plus. Mmh. Donc... Ma prof de guitare m'enseignait un peu à composer, etc. Mais c'est pas là qu'il s'est fait le déclic pour la compo. Parce que j'étais vraiment trop dans un cadre scolaire et j'aimais bien, mais j'avais pas la passion pour l'instrument. Même si ma prof de guitare, vraiment, a été vraiment superbe. Shout-out à elle, Evatsine. Franchement, c'est elle en premier qui m'a parlé de la composition, tu vois. Mais le déclic, je l'ai eu un peu après. J'ai toujours voulu... En vrai, j'ai toujours voulu savoir comment faire des instrumentales. Même quand je me posais pas la question, en vrai de vrai, j'ai toujours aimé ça. Donc,
t'avais cette curiosité, quoi, de savoir comment ça fonctionnait.
Voilà, exactement. Okay. Je me souviens que je suis dans la voiture. Je sais plus quel âge j'avais. Je suis dans la voiture, j'écoute la radio. Je suis en mode, mais comment ils font ça? Parce que j'entendais que c'était, vu que j'ai fait du conservatoire, je savais que c'était pas des vrais instruments. Je savais que c'était pas des vrais instruments. Même les batteries, j'entendais, je savais que c'était pas une vraie batterie. Je le savais. Donc, je me disais, comment ils font ça? Comment ils font ça? Moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, je me souviens avoir été en colonie de vacances et il y avait un mec qui m'avait montré qu'il faisait des prods sur son iPhone, un moniteur. C'était sur son iPod Touch, je m'en souviens. Et là, je me suis dit, mais c'est trop lourd. Si c'est toi qui as fait ça? Il me dit, ouais. Je dis, c'est une dinguerie. Et puis après, moi, j'avais pas d'iPhone, j'avais une PSP. Et du coup, j'ai cherché voir si on pouvait pas faire des prods sur la PSP. Et je suis tombé sur Beaterator de Timbaland. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à faire mes petites prods sur ma PSP tranquillement. Je pense qu'on était en 2009, quelque chose comme ça.
Okay.
À ce moment-là.
Donc t'as 12 ans.
Ouais.
Si t'es né en 97, ouais, 2009, t'as 12
exactement.
Ans.
Exactement. J'ai soit 2009, soit 2010. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait deux jeux sur la PSP sur lesquels je pouvais faire les prods, mais Bitterator, c'était le meilleur. Et dans mes souvenirs, ça ressemblait... Tu calais des points comme ça, ça ressemblait un peu à FL. Donc après ça, j'ai mis du temps à aller sur l'ordinateur et chercher un vrai logiciel pour le faire. Mais je l'ai fait, ouais. Quelques années après.
Tu citais FL, pour les gens qui ne connaîtraient pas le jargon de la production, c'est donc FL Studio, un des logiciels les plus connus et les plus répandus, disons, pour faire la musique assistée par ordinateur. À quel moment, justement, t'as commencé à pousser le truc plus loin, te prendre sérieusement au jeu et de commencer vraiment à faire des prods de manière plus, entre guillemets, plus professionnelle, mais en tout cas avec un peu plus de possibilités techniques et de confiance, quoi.
Je me souviens, j'avais recherché peut-être en novembre, octobre 2011, quelque chose comme ça, comment faire des prods, tout ça, sur l'ordinateur. Et j'avais essayé de télécharger Cubase, je m'en souviens. Et après, j'avais pas réussi. C'était un truc de torrent, etc. Donc, j'arrivais pas à cet âge-là. Je comprenais pas comment le truc il fonctionnait. Mm-hmm. Du coup, c'est au nouvel an 2012. Que y a Johan, un poteau à moi. Enfin, nos parents, ils se connaissaient. Et du coup, on a fait le nouvel an là-bas. Mm-hmm. À la base, je le connaissais de l'église, tu vois.
Okay.
Et du coup, c'était même pas comme si je le voyais souvent, souvent de fou. Et puis, j'arrive là-bas et je vois, on fait que de parler rap carré. Moi, j'étais fan de Kid Ink à ce moment-là. J'étais fan de Suja Boy. Et du coup... il avait la démo d'FL. Et à ce moment-là, on s'est chauffé. Il a dit, ouais, viens, on refait le crank that, la prod. Parce qu'elle était faite quasiment qu'avec des sons d'FL.
Tout à fait.
Alors, on est parti sur ça.
Et vous y êtes arrivé ou pas?
Franchement, dans mes souvenirs, c'était pas mauvais. On était plutôt bon dans ce qu'on avait fait, mais c'était la démo, on pouvait pas sauvegarder. Mm. Et dans mes souvenirs, c'était assez réussi. Je me souviens qu'on était super contents. Et du coup, moi, je me souviens, j'étais chargé FL peut-être un mois après, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je me souviens que j'étais chargé la Vehicle Mega Uploadimer. Donc, tu peux retrouver la date si tu veux.
Ah ouais, effectivement. Ouais, non, mais on essayait vers ces zones-là, 2012, 2013, la fin de Mega Upload, c'était par là, effectivement. Ouais.
Et j'étais tellement content. Achetez FL Studio, les gars. Je ne vais pas la promo des cracks. Mais j'étais tellement content parce qu'après ça, je ne sais pas si tu te souviens, après la mort de Mega Upload, tu ne pouvais rien trouver sur Internet.
Ouais, ouais.
Genre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mec. C'est clair. Donc, je suis super content de l'avoir coffré, mais j'ai démarré un petit peu après, je pense. J'ai démarré peut-être février, mars.
Ok.
Genre, j'avais coffré et puis je me suis dit quand j'aurai le temps. Et puis, je me souviens, à cette époque-là, j'avais pas non plus un accès limité à l'ordinateur. J'avais pas un accès limité à l'ordinateur. Donc,
ouais, bah oui, en plus, donc 2013, ouais, t'as encore... t'as 15, 16 ans.
J'ai 14 ans.
Ouais, bon, ouais. Voilà. Donc,
j'ai 14 ans.
Effectivement, j'imagine qu'à la maison, tu
ouais,
pouvais pas être...
sur l'ordinateur fixe.
Ouais, c'est ça.
C'est dans le salon.
Ouais.
Moi, c'est pas mon ordi. J'ai même pas le mot de passe.
Ouais, ouais, je vois très bien.
donc, voilà.
On retiendra cette information que la première production de Benjay, c'était un Soulja Boy type beat. Ça, c'est pas mal, ça.
Crank that.
Alors, avant qu'on fasse cet entretien, je t'avais posé une question un peu préparatoire. Je t'avais demandé, comme je le fais souvent aux producteurs qui passent dans cette émission, si tu devais donner une prod que toi, t'aurais aimé faire, un truc qui a été important dans ton parcours d'auditeur, mais aussi d'apprenti producteur. Et tu m'as cité la prod Bedrock,
ouais,
du crew Young Money, qui était produit par Kane Beats.
Ken Beats, mon gars. Hate to see her go, but I love to watch her leave. But I keep her running back and forth. Soccer team, cold as a winter's day, hot as the summer's eve. Young money thieves, steal your love and leave. J'ai choisi cette prod parce que même le son, c'est le début d'une nouvelle ère à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et la prod, elle est sortie en 2009. Et je me souviens, là, j'étais à... Je m'intéressais déjà au beatmaker avant de faire des prods, parce que j'ai commencé en 2012. Donc, dis-toi, j'ai choisi aussi cette prod parce que je me suis dit, la prod, elle est sortie en 2009. Et en 2012, quand j'ai commencé les prods, j'étais toujours là en train d'essayer de refaire cette prod.
De reproduire un peu l'esprit, l'esthétique.
Je me souviens que j'étais en Guadeloupe en 2012 et que c'est... Je me souviens d'avoir baissé le BPM à 75 et de me dire, OK, pour faire ce genre de prod, il faut faire le BPM à 75. Et c'était la première fois que je baisse le BPM à 75, tu vois. Et avant, je faisais toujours mes prods à 100, trucs comme ça. Et c'était ma première prod où je baissais le BPM à ce niveau-là. Et ouais, ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Et même ce type de prod, je kiffais à l'époque. Kane Beats, c'était mon beatmaker préféré. Il avait fait The Show Goes On, de Lupe Fiasco, Right Above It, de Lil Wayne, Drake.
Mm-hmm. Beaucoup travaillé avec Nicki Minaj aussi après. Super Bass, par exemple.
Ouais, Your Love. Non, il n'avait pas fait Your Love. Il avait fait Steady Mobin de Lil Wayne, mm-hmm. Gucci. Mm-hmm. Franchement, toutes ces prods, je les kiffais.
Ah, c'était un hitmaker dans la bascule des années 2000 à 2010.
Franchement, Kane Beats, c'est le premier gars qui m'a vraiment retourné le cerveau. Enfin, bien sûr, il y en a ceux qui étaient avant, mais avant, je ne connaissais pas vraiment les beatmakers. Et à ce moment-là, c'était l'époque Kane Beats, Da Business. Après, il y a Jalil qui m'a trop retourné le cerveau.
C'est quoi ta prod préférée, Jalil Beats?
Franchement, je sais pas comme ça, mais ma prod qui m'a le plus marqué, c'est Amebos.
Ouais.
C'est Amebos. Il y a Ola At Me aussi, dinguerie.
Mais c'est vrai qu'Amebos, quand ça arrive avec Meek Mill qui est en pleine ascension, ça a marqué beaucoup de gens. Ouais.
Franchement, si t'as fait des prods à ce moment-là, je pense que t'as essayé de faire un Amebos type beat.
Bien sûr. En plus, que ce soit chez Kane Beats, chez Jalil Beats, il y avait beaucoup ce truc de jouer sur les contretemps des caisses claires.
Ouais.
Les tas.
J'ai pas cité, mais il y avait Cardiac sur ça aussi.
Ouais.
Cardiac, c'est jusqu'à Cardiac. Au début, je préférais Jalil Beats, mais après, je me suis rendu compte que Cardiac, c'était un autre niveau.
Et puis Cardiac, peut-être que ça t'a inconsciemment parlé à toi qui venais justement d'une formation classique. Parce que Cardiac, il a beaucoup ce truc d'être très mélodieux, d'avoir des instruments qui sonnent un peu live, etc. Beaucoup de piano, etc. Donc
moi, je kiffais à mort, mais pourtant, Kane Beats, c'est tout l'inverse, c'est que des synthés.
Exactement, c'est très synthétique le son de Kane Beats, ouais.
C'est ça. Et puis il y en avait d'autres, mais. Ouais, Da Business aussi m'a bien marqué.
Bien sûr.
Hit Boy aussi.
Bah oui, c'était ses débuts.
Franchement, ouais. C'est cette période-là. Je pense qu'il y a... Je ne vais pas re-kiffer la musique comme je l'ai kiffé à ce moment-là. C'était trop. C'était vraiment trop. Genre, tous les jours, j'allais sur Rhythm Hip Hop à ce moment-là. J'allais dans tous les Very Hot, j'écoutais tout.
Okay.
C'est-à-dire que je pouvais écouter genre 30 sons par jour. 30 nouveaux sons. J'étais pire qu'un DA, gros. il y avait que ça qui comptait pour moi, écouter du nouveau son.
Du coup, à quel moment tu prends en confiance ou tu te fais assez de relations pour faire des premiers placements?
J'ai commencé à publier mes prods sur Twitter.
Ok.
Et ça, on était en 2012. Hein. Direct, j'ai commencé, m'en foutais, hein, let's go. Mes premières prods, je les ai publiées et j'ai compris. Enfin, je l'ai publié sur YouTube, mais je faisais ma promo avec Twitter et j'ai compris directement comment je pouvais monter sur Twitter. Et je publiais mes prods, je faisais en sorte qu'elles aillent en top tweet. Et ça allait en top tweet à cette époque. Genre vraiment, j'avais compris comment avoir des followers, j'avais compris comment faire parler de moi. Je retweetais tout le monde, et tout le monde disait c'est qui Benji, machin, truc. Les gens me suivaient, mais ne savaient pas j'étais qui, donc du coup... Ça faisait un effet boule de neige. Mm-hmm. Au final, je faisais mes vues sur mes prods. Et je me souviens qu'il y a des rappeurs qui tombaient dessus. Et voilà, quoi. C'est le premier son que j'ai eu, c'est fait comme ça. Un mec a pris ma prod sur YouTube. Il est allé en studio, il a posé.
Tu te souviens qui c'était?
Ouais, je me souviens qui c'était. Tirgo, il s'appelle.
OK.
Tirgo. Ouais. C'était le, à cette époque-là, c'était le petit A Mister You.
Ok, c'est marrant ça.
Franchement, il avait une hype. Hein. Le son, il était dans un projet. Je me souviens, il avait fait sold out à la Fnac de Créteil. Ouais, je me souviens, ça c'était en 2013. Et c'était sur une prod. C'était un remake de Jalil Beats en vrai. All I Do de Jalil Beats. Moi, je me cachais même pas. J'avais mis All I Do aussi comme nom. Et ouais, du coup, ouais, c'était ça mon premier son qui est sorti, c'est ça.
C'est la peufra du rock, ma hache monnaie qui est à main. On a la patate que t'as pas, notre fournisseur il s'appelle pas. On va te passer à tabac, numéro uno en taga. Avec le bénef du canard, tu pourras t'acheter un tabac.
Donc là, on parle même pas de faire payer ta prod ou ce genre de choses. T'étais même pas dans ces considérations-là, là, à ce moment-là, si.
Bah, avant ça, je crois que j'avais déjà vendu une prod, 40 balles.
Ok.
Sur, c'était un, mais il n'avait pas sorti, l'artiste n'a pas sorti. Mais ouais, le premier son qui est sorti, c'est ça. Donc, ouais, non, il avait pris ma prod sur YouTube. Moi, mon père, j'étais juste content.
Ouais.
J'étais juste content. Je me suis dit, c'est une prod de YouTube. Voilà quoi.
Moi, ton premier placement d'importance que, dont je me souviens et qui s'est reconfirmé quand j'ai vu les, quand j'ai préparé cette interview, que j'ai vu les crédits, c'était pour Alonso. La prod Finilé.
Yes.
Comment on passe de mettre ses prods sur YouTube et essayer de capter l'attention du public rap et des artistes sur Twitter à placer pour Alonso sur en plus ce disque qui était capot des Icapi.
Ouais.
Quand, bah, qu'est-ce
déjà,
qui s'est passé?
Déjà, il faut que je dise que si j'avais pas eu Twitter, ce placement ne se serait jamais fait. Parce que c'est grâce à Twitter qu'un frérot à moi, East Time, m'a repéré. Et à ce moment-là, il était dans un truc, je ne sais plus, il était dans un label. Mais en tout cas, il s'occupait de faire des connexions. Il faisait plein de choses. Et du coup, East Time, Lamine, il s'appelle Lamine, maintenant il ne s'est plus appelé East Time. Et il m'a connecté avec un frère à moi qui s'appelle Quentin Crossi. Et du coup, Quentin, j'ai commencé à lui envoyer des prods. Et lui a envoyé la prod de Finilé à Spike. Spike l'a fait écouter à Alonso.
Donc Spike Miller, qui est le producteur et réalisateur historique d'Alonso.
Donc en gros, ça fait beaucoup de cheminement. Mm-hmm. Mais si je n'avais pas eu Twitter...
Mm-hmm. Il y a un effet papillon, en fait.
Ce truc-là, il ne se serait jamais fait, tu vois.
Ouais.
Lamine n'aurait jamais entendu parler de moi. Et puis, voilà, quoi. Et Quentin non plus, Spike, Alonso non plus. Bon, peut-être par la suite, mais... En tout cas, Finilé, ce ne serait pas fait. C'est sûr et certain parce que Finilé, je l'ai fait avec un ACAP de The Game. Il aurait fini sur SoundCloud. Je me suis dit, et à ce moment-là, je me suis dit, hey, mais j'ai un contact dans la musique. Vas-y, je vais envoyer ma prod comme ça.
Ils croient qu'ils sont forts. Petit mesquine. Je suis là depuis Luciano. Get out shit. Parlons français. Tu n'as pas percé. Je te jure sur mon fils, ils ont pas un euro.
Je trouve ça intéressant que tu dises que tu l'as fait avec un a cappella, c'est-à-dire que tu avais déjà une voix dessus, parce qu'effectivement, moi, cette prod de Finilé, je trouve qu'elle elle dit déjà peut-être quelque chose d'un niveau de compréhension conscient ou inconscient de ta part, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses, tu vois, en termes de mélodie, elle est très aérienne, il y a beaucoup de filtres, passe-bas, etc., tu vois. Il y a beaucoup d'éléments percussifs dans le beat, mais en termes de mélodie, on sent qu'il y a de la place pour la voix.
Ouais, je pense que c'est vraiment grâce à la capella, parce que à cette période-là, je chargeais mes prods comme pas possible.
Bah, donc, comme beaucoup de jeunes producteurs au début, donc, vous avez tendance justement à mettre beaucoup de choses parce que vous voulez être démonstratif. C'est quoi.
C'est ça, mais juste, on n'a pas la notion de ouais, il faut qu'il y ait un rappeur, on a juste trop d'inspi.
C'est ça.
donc ouais, le faire avec un a cappella, ça m'a fortement aidé. A cappella, c'était Orna de The Game. C'était un son un peu DJ Mustard comme ça. Et comme Finilé, il est divisé par deux dans le BPM. Du coup, le BPM de Finilé, je crois, c'est 52 ou 54.
C'est vrai que c'est une instru très lente.
Très, très lente. Bah, tu vois, c'était le double, en fait, en mode West Coast.
Ouais.
Et du coup, moi, je l'avais pris au ralenti, tu vois. Et puis voilà. Hein. Et c'est comment après je passe de ça, de beatmaker de Twitter à ça. Bah déjà, je me focus un peu plus sur les prods. Je me souviens de Quentin qui m'avait dit « Ouais, tes conneries Twitter, slow down sur ça parce que là maintenant, il y a Alonso qui t'a retweeté. » Je me souviens, Quentin, il m'avait dit ça. Je me suis dit « Bon, Twitter là, je vais arrêter de faire mes blagounettes dessus. Je vais me focus un peu, faire mes prods. » Et puis après, j'ai déserté un peu, tu vois. J'étais plus trop sur les réseaux. Donc ouais, 2015... Après, ça n'a pas forcément bougé de fou pour moi après ça. Mais quand j'ai commencé à contacter les artistes de moi-même après ça, j'ai senti qu'il y avait une crédibilité en plus.
T'avais fait Finilé d'Alonso, et donc d'un seul coup...
Moi, je ne me rendais pas compte, moi, à la base. Je me rendais pas compte. Pour moi, j'avais juste fait un bon son, mais je n'avais pas capté que dans la tête des gens, c'était déjà un classique, tu vois.
Est-ce que ce n'était pas du fait aussi de ton jeune âge? Parce qu'on est en 2015, t'as 17-18 ans.
Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi ce manque peut-être de maturité qui t'empêchait d'avoir une forme de lucidité sur l'impact que dans le court terme que tu avais réussi à avoir tout de suite.
Sûrement, parce que je me souviens d'avoir commencé à DM les rappeurs en disant juste « Oh, salut, je suis beatmaker, je peux t'envoyer des prods. » Je disais même pas que j'avais fait finir. À la base, je disais même pas. Pour moi, c'était me vanter. Je comprenais rien au milieu. Pour moi, j'ai dit « Je vais pas arriver, je vais pas bomber. » Tu vois. Genre, et puis après, j'ai compris, j'ai fait les tests. J'ai vu que ça avait fonctionné une fois, deux fois. Rimka m'a répondu comme ça. À l'époque, Fianso m'avait répondu comme ça. Joker, même Ateyaba. J'ai eu grave de réponses grâce à ce message, tu vois. J'ai juste parce que j'avais dit que j'avais fait finilé, tu vois.
Et c'est vrai que là, tu citais Rimka. Mmh. On était en 2015, 2016, tu fais Contrefaçon pour Rimka, par exemple. Il y a le morceau Naps et Rimka aussi, Le Sens des Affaires. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas tout de suite dans le dur de ta discographie. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2017, ça reste encore sporadique d'une certaine manière, tes placements, quoi.
Bah, j'ai commencé à vraiment faire des prods tous les jours en septembre 2016. Okay. Parce qu'avant ça, j'étais à la fac.
Forcément, et c'est quelque chose que j'allais te poser. Vu ton jeune âge, t'avais peut-être aussi d'autres occupations en dehors de la musique, quoi.
Ouais, voilà, j'étais à la fac. Mm. Bon, c'était pour faire plaisir à ma mère. Mais...
T'as fait une fac de quoi ?
J'ai fait LLCER anglais.
Ok.
Mais c'était vraiment pour faire le... Enfin, je suis allé sur APB, là. C'est le seul truc qui restait. J'ai postulé... J'étais en Guadeloupe en août pour septembre. Donc je suis arrivé à la fac en septembre dans une classe où les profs ils parlent que anglais, tout ça. Après ça m'a aidé un petit peu à prendre un petit niveau parce que je lisais des livres en anglais, etc. Mais en plus j'ai passé une bonne année, j'ai rencontré des bonnes personnes. J'étais toute l'année dans la classe, j'arrive à la fac, je vois avec ma cousine dans la même classe. Je dis bon, ouais, tant mieux, tu vois. Mais du coup, ouais. Après ça, j'ai commencé à mettre sérieusement, j'ai dit à ma mère, laisse-moi un an, une vraie année, je fais ma musique, et puis on voit ce que ça donne.
Donc t'as fait ta première année d'LLCE, c'est ça ? Ouais. Et ensuite, au lieu de faire ta deuxième année, t'as voulu te focus sur la musique.
J'allais pas faire de deuxième année, ouais. Première.
C'était clair dans ta tête.
Non, parce que j'arrivais à la fac, je me suis dit, quitte à être à la fac, autant avoir mon année, j'aime pas perdre. Moi, je suis comme ça, je suis du compétiteur. Donc premier semestre, je commence à bien réviser, faire mes trucs. Je commence à en vouloir, tu vois. Mais je vois que j'ai plus du tout de temps pour la musique, mais genre vraiment zéro.
Bah, il faut faire un choix à un moment donné.
Donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit, bon, où est-ce que ça va t'emmener ça, frérot, tu sais même pas. Donc j'ai mis un peu mon, tu sais, l'ego de compétiteur de, ouais, je vais avoir mon année. J'ai arrêté au premier semestre. Je suis jamais à la fac pour la bourse. Et puis avec ma bourse, j'ai acheté mes enceintes, ma carte son et mon permis. Donc voilà.
Ça n'a pas servi à rien.
Ouais, exactement.
Voilà. Et donc, je le disais, donc 2017, t'as quelques premiers placements importants. Rimka, Naps et Rimka. Damso, avec TXV, qui est un morceau Baile Funk qui est un peu ovni à cette époque-là, finalement, la Baile Funk. C'est pas quelque chose qu'on a coutume d'entendre dans le...
Je suis fan de Baile depuis. Hein.
Et ça, c'est intéressant, ça.
Ah, depuis. Et tu peux même aller sur ma chaîne YouTube. Tu vas tomber sur un remix de Bondi Das Malavias en 2014.
Ah ouais, effectivement, ouais.
Donc... Non, j'écoute ça depuis et ça me tenait à cœur de ramener ça en France. Genre vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse c'est un objectif, il faut que je fasse le premier hit qui pète en bas les funk, tu vois. Genre, c'est un objectif pour moi. Et,
et ça dit aussi quelque chose de Damso, qui s'est fait connaître un an avant avec Batterie Faible, qui est un album, enfin un disque en tout cas, où il y avait beaucoup de trap, etc. De teaser son deuxième album... Avec effectivement, parce que ce morceau-là finalement n'est jamais sorti sur aucun disque officiellement,
ouais, c'est ça.
De sortir avec un truc un peu ovni à cette époque-là, qui est un morceau pas le fun, quoi. Donc c'est intéressant, tu vois, aussi de voir déjà peut-être sa démarche musicale à lui, de te faire confiance toi, alors que t'es pas encore, tu vois, établi.
C'est ça.
Et en plus de faire sur un truc qu'on n'a pas la coutume d'entendre, quoi.
Faut savoir déjà, Damso, avant de faire ce morceau-là, je lui avais déjà envoyé plein de prods, il était déjà en train de faire d'autres morceaux, tu vois. Et celui-là, il est sorti super vite. Enfin, il a leaké super vite. Parce que je me souviens, j'ai envoyé la prod en avril, quelque chose comme ça. Et je ne sais plus, peut-être il a leaké en mai. Donc, ouais, ça a été super rapide. Et moi, je me souviens d'une interview de Damso qui disait comme quoi qu'il aimait faire des sons qu'il n'avait jamais fait, des trucs. Et du coup, moi, je me suis dit, ah ouais, on va voir. Et du coup, j'ai envoyé la prod dans le pack et c'est passé. Mais voilà, je m'étais renseigné sur l'artiste, je regardais les interviews. Je faisais toujours ça à cette époque-là, vraiment, avant d'envoyer des prods, je regardais toujours les interviews de l'artiste pour voir les, dans quel mental ils étaient, histoire de les sonder un peu plus. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est comme ça que je faisais mes packs de prods. Et ça a bien marché à ce moment-là.
Non, non, non. Je suis pas des leurs, Robert, Marley, Bobby, Bobby. Comme un ever, comme jamais, je suis dans le Tux.
Je pense que c'est important, effectivement, de toujours aussi réussir à cibler parce que, effectivement, quand on est des producteurs comme vous, on est pour ceux qui sont dans ce système-là de placement, c'est-à-dire, je ne parle pas des gens du type Spike Miller qui sont dans la réal, dans le temps long avec un ou deux artistes, mais surtout à vos débuts, quand vous êtes dans cette économie du placement, etc. Je pense que c'est toujours plus smart, effectivement, d'arriver à cibler vos envois, quoi.
Ouais.
De capter le mood musical, les intentions, tu vois, les inspirations. Et
c'est super compliqué à distance quand tu connais pas l'artiste, t'as pas de relation avec l'artiste, c'est super chaud parce que ce qu'il a fait la veille, c'est pas forcément ce qu'il veut faire demain.
Bien sûr.
Donc, moi, quand je faisais mes packs, j'envoyais 5 prods à peu près et j'envoyais 2 prods où c'est le mood de l'artiste que je connais. Peut-être une ou deux prods qui où je le vois, mais je sais pas trop. Et une prod vraiment totalement rien à voir. Et souvent, les mecs prenaient la prod totalement rien à voir, tu vois. Et ça fait ça avec TXV, tu vois. Mais fallait pas envoyer... Si tu envoyais que des prods totalement rien à voir, le mec, il allait se dire, mais...
Gars, ouais.
Il est con, quoi.
il a pas compris ce que je fais, moi.
Tu vois.
2017, c'est aussi un truc important, en tout cas en termes de crédit... par rapport à des coproductions. Je pense notamment à des morceaux, à un morceau, pardon, pour Monsieur Neuf qui s'appelle Señorita.
Yes.
Et un morceau aussi pour En être la frappe qui s'appelle Ça passe, puisque ce sont des coproductions avec Zeg P.
Le Zeg.
Voilà. C'est quelqu'un avec qui on va y venir justement tout à l'heure au vu d'un disque qui est sorti cette année, celui de Monsieur Neuf, on va en discuter tout à l'heure. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un avec qui Zeg P, vous connaissez depuis longtemps.
Ouais.
Comment vous êtes rencontrés et pourquoi vous avez accroché humainement, artistiquement?
Comment on s'est rencontrés? Moi, j'allais au studio à Savigny-le-Temple, à Everest Studio, tu vois. Et on a un ami en commun. Enfin, à la base, il y a Richie31 qui vient. On est censé se rencontrer pour faire du son, pour écouter les prods, etc. Et lui, Richie, lui, il est pote avec Zeg P depuis. Et c'est lui qui l'a ramené au studio, tu vois. Et on devait être peut-être en 2015-2016. Ouais, et du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à se capter souvent au studio à Savigny, vu que lui, Zeg P, il est de Melun à la base. Donc, je me souviens, un rituel tous les dimanches, Richie, Zeg P, moi, Keda, qui est le producteur du label Interstellar auquel il était Richie, on se captait le dimanche et on faisait du son. Voilà, c'était bonne ambiance. Franchement, cette période-là, trop lourde, tu vois. Ça a vraiment... Franchement, c'est cette période-là qui m'a vraiment donné de l'expérience en studio, tu vois. C'est peut-être pas mes premières séances studio, mais c'est mes premières séances studio récurrentes, tu vois, avec un artiste. Et même avec le Zeg, quand on faisait des prods, c'était fluide à mort. Chaque fois qu'on faisait une prod, on la plaçait. Vraiment, on n'a pas fait beaucoup de collabs avec Zeg P, hein. Mais chaque fois qu'on faisait des sons, on les plaçait. Tu vois, parce que c'est pas parce que forcément on allait au studio tous les dimanches qu'on faisait tout le temps du son ensemble, tu vois. Donc
il y a une alchimie très vite entre vous deux, quoi.
Ouais, voilà.
Alors justement, ça c'est une question que j'aime bien poser à des producteurs qui viennent à ce micro et qui ont l'habitude de travailler avec d'autres producteurs. Qu'est-ce que tu penses est ton forte, tes atouts, et qu'est-ce que sont les fortes et les atouts, tu vois, de Zeg P qui vous permettent de vous compléter? Et tu vois, est-ce qu'il y a des choses que lui, il sait faire ou il arrive à comprendre, sur lesquelles t'as peut-être encore des lacunes et inversement, tu vois?
Là, tu vois, on est en 2016. Zeg P, lui, il comprend déjà ce que veut un artiste.
Okay.
Moi, je suis plus dans mon délire carry, truc. Moi, je suis jeune fou. Lui, il est déjà un peu plus... il comprend déjà un peu plus le game. Il est un peu plus âgé que moi, tu vois. Donc, lui, il a la vision déjà. Là où moi, j'ai une vision, certes, mais je vais faire beaucoup plus de prod. Lui, il va faire un peu moins de prod, mais il va taper dans le mille.
Ouais, il essaie d'être plus précis.
Ouais, lui, il est déjà précis. gros, c'est trop. Lui, il est déjà précis. Et il est toujours précis. Il faut le dire. Tu vois. Donc, voilà, c'est ça. C'est... Moi, j'avais un peu plus de folie, on va dire, je pense. Et...
Ça vous équilibre entre lui
ouais, et sa puis forme... à cette époque-là, ouais. Tu vois, on n'est pas dans le délire de toi, tu fais la mélo, moi, je fais les drums, on faisait tout ensemble. Mm-hmm. Après, ça dépend des titres, mais la plupart des sons, on faisait ça ensemble, tu vois. Et puis voilà, c'était vraiment très lourd cette période, mon souvenir.
Ah, et c'est intéressant parce qu'on arrive à l'année 2018 qui est un peu pivot pour toi, justement. Mmh. Et avant de parler des gros placements que tu arrives à réaliser en 2018, mmh. tu parlais de Ritchie 31, donc parlons-en. Il sort You Dig, qui mmh. est son premier disque officiel en tout cas, et sur lequel tu produis énormément et sur lequel j'ai l'impression que c'est un laboratoire à idées aussi pour toi.
Ouais, ouais, fort. Bah, comme j'ai dit, avec Ritchie 31, c'est là où... D'ailleurs, j'étais avec lui hier. J'étais avec lui hier, tu vois, donc c'est les premières sessions où vraiment je trouve un artiste qui est vraiment dans mon délire, un peu Young Thug, qui a un rire à mort, tu vois. Mm-hmm. Et on écoute les mêmes choses, on se fait tabasser par les mêmes trucs. Alchimie, vraiment. Et du coup, on fait le projet sans trop forcer, je te mens pas. On est... Tout ce que je fais, il kiffe, il suit, il teste des trucs. Franchement, c'est trop plaisant d'avoir un artiste. La moindre prod que tu fais, il va dire « Non, Benji, waouh, c'est trop !» Et puis, tu vois, genre, ça m'a fait kiffer, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a même fait un deuxième EP la même année, mm-hmm. Udic 2.
Tout à fait.
Donc, il y avait comme producteur et dessus, il y avait moi, il y avait Zek P, il y avait RDS, je m'en souviens.
RDS qui est aussi quelqu'un du 77. Voilà.
RDS, à la base, on habite à 3 minutes à pied.
Ah ouais, effectivement, ouais.
On habite à 3 minutes à pied, mm-hmm. tu vois. RDS aussi, ça a été, quand j'ai commencé les prods, ça a été une source de motivation, tu vois. RDS, en 2016, on habite juste à côté, un frérot à moi, Domka. Il dit, mais comment ça, vous deux beatmakers, vous habitez à côté,
vous captez pas.
On suivait sur Twitter vite okay. fait, mais je savais même pas, il était de Savigny. Et il m'a dit, ouais, va le capter chez lui, tout ça et tout. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'arrive chez RDS, je vois quoi, ce fou. Il a comme une liste accrochée, comme un Death Note, avec des noms de rappeurs. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, c'est des rappeurs, je dois placer.
La détermination.
J'ai dit, mais lui, il est fou. J'ai dit, non, il est déter comme ça. Je suis rentré, j'ai fait la même. Et puis, quand il y avait des rappeurs, tu plaçais, boum, tu barrais. C'était une dinguerie, la satisfaction de barrer, tu vois. Et non, vraiment, shout-out à RDS, vraiment, parce que ça c'était vraiment au moment où j'ai commencé à me mettre sérieux. C'était juste avant que je commence. Si je dis pas de bêtises, c'est l'été 2016. Parce que je me souviens, ils disaient, bon, peut-être c'était vraiment en septembre quand j'ai vraiment commencé à vouloir me mettre sérieux dans la musique à 100%, tu vois. Donc, ouais. Et puis RDS, c'est vraiment celui avec qui je bougeais quand j'allais en session tout le temps. À chaque fois qu'on a une opportunité, on se la partageait. Mm-hmm. Genre, c'est lui qui m'a donné le mail de Damso. Dans un premier temps, c'est lui qui avait posté une prod sur son feed. Il avait DM Damso avait commenté sa prod. Et du coup, il m'a passé le mail. Puis moi je l'ai emmené au studio avec Rimka. Il a fait Air Max. Mm-hmm. Donc, en vrai, c'était que de l'entraide.
Bien sûr.
Tu vois, c'était que de l'entraide. Et si on ne s'était pas entraîné à ce moment-là, ben, peut-être on vivrait peut-être même pas de la musique à ce, mm-hmm. ce jour-là.
Je me souviens même, RDS, puisqu'il m'avait fait confiance, et je le remercie encore mm-hmm. aujourd'hui, de faire le premier épisode de La Prod, donc mm-hmm. cette série sur Move. Je me souviens qu'il m'avait même dit, je crois, que parmi les choses qu'il utilisait pour faire la prod, il y avait des choses qui faisaient partie de ton kit ou quelque chose dans le genre, je crois.
Oui, ma basse. La basse qui s'appelle Benji. Voilà. Je me souviens. Mais ouais, mais moi aussi, j'ai des percussions que j'ai récupérées de chez lui. T'inquiète.
C'est dedans, en fait. Bah,
non, franchement,
bien sûr.
On faisait pas mal de prod ensemble. Et vraiment, c'est... ZP et RDS, c'est les premiers mecs avec qui j'ai vraiment collaboré pour de vrai, tu vois. C'est, si tu regardes mes crédits jusqu'à 2019, il n'y a que eux quasiment en coprod, tu vois.
Donc je le disais, 2018, c'est une année importante. Il y a trois artistes notamment avec lesquels tu vas commencer à faire des choses et on sent que ton son s'affirme avec eux. Mmh. Déjà, tu vas placer pour PLK, qui sort Platinum pardon, d'abord. Mmh. Il y a quatre prods à toi sur ce disque. Il y a AAA, Colis Piégé, Flamenco et Copine. Copine, je le mets un petit peu à part. Mmh. Mais déjà, je trouve qu'avec AAA, Colis Piégé et Flamenco, il y a quelque chose sur lequel ton son s'affirme. Alors, on sent une inspiration, tu vas me dire si elle est consciente ou non, mais des choses qui tirent un peu vers la trappe Metro Boomin, tu vois, la trappe d'Atlanta de ce moment-là. Ouais,
fort, j'écoute ça à fond. Déjà, Platinum, une mixtape qui était censée être bouclée avant que je DMP le cas.
Ok.
Donc, je me retrouvais quatre fois dedans. Déjà, donc ça, c'était une dinguerie pour moi. Et du coup, ouais, bah, à ce moment-là, j'écoute à fond. Je suis à fond branché de trap. Toujours les mêmes, hein, Young Thug. À ce moment-là, j'écoute quoi ? On a quelle année ? 2018.
2018, donc peut-être que c'est prod à ta de 2017 par là, je sais pas.
Ouais, non.
Non. Hein.
Je crois que c'est ta date de 2018.
Ok.
Hein.
Okay.
Et.
Ouais, bah, y avait eu aussi le Offset. Non, attends, il y avait eu le 21 Savage Without Warning. Ou avec des prods de Metro Boomin quelques mois avant, tu vois, par exemple.
Franchement, je sais plus ce que j'écoutais à ce moment-là, mais j'écoutais que du carré.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Donc, Travis Scott, ces trucs-là. Même si je sais pas, ça se ressent vraiment dans les influences juste après. Mais ouais, c'était niveau bounce en fait, niveau rythmique, niveau drum.
Même je trouve niveau ambiance, tu sais, ce truc très mystérieux, sombre, tu vois, les bells, tu vois, ce genre de choses.
Ouais. Ouais, franchement, c'est j'écoutais que du carré. Je peux pas te dire j'écoutais quoi exactement à ce moment-là, mais.
Non, mais ça sent que tu baignes dans cette trappe un peu psychédélique qui commence à apparaître chez tous ces artistes en fait que tu cites, Travis Scott qui ensuite...
Bah, en vrai, ce qui était cool avec PLK, c'est que j'arrivais à avoir mon autre touche. Mm-hmm. Moi, en fait, à ce moment-là, je me souviens, j'inspirais beaucoup de Q-Beats pour les mélodies et de Murda Beats pour les drums. Et Wheezy, c'est venu... Ouais, Wheezy un petit peu aussi.
Wheezy, ouais, déjà à cette époque-là, ouais.
Ouais. Un petit peu... C'est venu un petit peu après. Mm-hmm. Mais vraiment, Murda, à ce moment-là, 2018... Là, ça, c'est revenu. Mm-hmm. C'est lui qui me tabassait. Et j'essaie de faire des drums un peu à la Murda et des mélodies à la Q-Beats, tu vois.
Ce qui est toujours intéressant, moi, je trouve, c'est que quand on a ces inspirations directes, c'est qu'on peut tomber assez facilement dans le copier-coller, ce qui peut arriver, tu vois. Ou alors, on peut essayer, je trouve, pour vous, les producteurs, la marge de manœuvre que vous avez, c'est souvent de jouer avec les textures, tu vois, ce genre de choses, sur les effets. Et quand j'écoute justement ces prods-là, par exemple pour PLK sur Platinum, on sent ses inspirations, mais tu t'en caches pas non plus, mais que on n'est pas dans la copie carbone, quoi, et que tu joues sur des textures, peut-être des effets du genre halftime, donc un effet qui est beaucoup utilisé justement sur FL Studio, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, déjà assez rapidement, tu as en tête de te dire, il faut que j'arrive à être singulier, justement en allant chercher tous les outils que j'ai en main sur les logiciels pour avoir une signature sonore, quoi.
C'est ça, bah, à ce moment-là, je touche un peu au plugin d'effets. Après, je ne suis pas non plus totalement à fond dedans comme maintenant, tu vois. Mais je voulais avoir mon son. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de prod qui sonnent carré dans les bounces, etc. Et moi, déjà, je voulais me démarquer déjà sur les drums, dans les mélos aussi. Mais moi, mon truc principal à ce moment-là, c'est vraiment d'arriver avec des drums carré, des grosses 808. C'est vraiment ça mon but, tu vois. Des bounces qu'on... Moi, j'étais focus sur le bounce.
Le jeu sur les charlets. Voilà, beaucoup de jeux sur les charlets,
Exactement. Et après, dans les mélodies, bah, c'est mes inspirations, je le faisais pas forcément exprès, tu vois. Genre, si ça sonnait comme ça, ça sonnait comme ça, tu vois. Je faisais juste normal. Du bungee, tu vois.
Bien sûr. Et donc, je le disais, il y a une prod. Il y avait les trois que j'ai cités, mais il y a aussi Copine, qui est up-tempo, beaucoup plus ensoleillé, et qui dénote par rapport à ce que aux trois autres, quoi. C'est ce qui est intéressant.
Ouais, ça, je me souviens, je me suis inspiré d'un son de Chris Brown, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est dans une mixtape à 34 titres. Ça, je me souviens, par contre. Mais ouais, je me suis inspiré d'un son de Chris Brown, et dans la rythmique, tu vois, que dans la rythmique. Et je me suis dit, il fallait que je fasse un son comme ça. J'ai testé, à la base, Damso, il avait kiffé cette prod, j'en souviens. Et puis Polak, il a devancé le truc. Et puis voilà, il a sorti ça. Hein. Et moi, je savais que c'était un hit, ce son. Parce que aujourd'hui, c'est, je crois que c'est le son le plus streamé de l'album de la mixtape, tu vois. Et même s'il n'a pas été mis en avant, pour moi, comme il devrait, mais après, bon.
C'est le public qui se l'est accaparé, quoi.
Polak, après ça, voilà, il a fait ses hits, donc dans tous les cas, c'est pas un copine qui lui manque, tu vois.
Bien sûr.
Mais j'avais confiance en ce son, tu vois. Et je suis content de comment il a vieilli.
Ouais, la copine est fraîche, mais après, genre, elle sait pas. Elle aime bien sortir boire les verres et rentrer assez tard. Elle répond pas aux avances de tous les gars qui la draguent. Elle préfère quand c'est elle qui choisit et qui attaque. Elle aime prendre des décisions seule, avec trois copines à elle. Elles écoutent quand t'appelles. Hey, qu'est-ce que tu croyais, gros sac? Qu'elles se disent rien, oublie pas qu'elles nous prennent pour des lossas.
Je le disais, il y a deux autres artistes qui sont importants. Bah, attends, puisque tu le citais, il y a Damso, puisqu'il y a son album Lithopédion qui sort, sur lequel t'as deux productions, Festival de rêve et 60 années. Et je me demande toujours, tu vois, si par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si tu as senti quelque chose chez Damso, tu lui avais envoyé ses prods en particulier, ou si c'est dans un pack, il a pris ces deux-là, parce que je trouve qu'elles ont des choses un peu communes dans l'ambiance, justement, très fait, très onirique, tu vois, d'une certaine manière. Comment ça s'est fait pour ces deux productions-là, et c'était quoi un peu la démarche, tu vois, artistique, créative, quoi?
Bah, déjà, Damso, je me souviens, je l'avais commencé à lui envoyer des prods en janvier 2017. Si je dis pas de bêtises. Et ouais, sûr. Et déjà, Damso, au premier message qu'il m'envoie, ouais, j'ai écouté, mais j'ai pas accroché. Si t'en as d'autres, envoie. Donc moi, je me suis dit déjà, il m'a répondu. Il aime pas, mais let's go. Il me répond
ça,
déjà.
Ça a piqué ton esprit de compétition un peu là, non de... J'ai ouais, pas aimé, mais...
Ouais, en vrai, ça m'a même pas fait non. mal ou quoi. C'était ouais. juste en mode, ah ouais, tu réponds, vas-y. Tu vois, genre, carré. D'habitude, les mecs, ils aiment, ils répondent même pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais bosser, je continue à envoyer. Je vois qu'ils commencent à plus répondre et tout, tu vois. Et puis, je dis quoi, je sais quoi, je fais une pause, j'en vois plus. J'analyse Damso, j'analyse les rythmes qu'il aime, j'écoute. Je me dis, ok, je vais faire des prods et je vais tabasser, tu vois. Et je me souviens... Je lui ai envoyé les prods, je lui ai envoyé 5 prods. Il avait accès à que 3 prods parce que Google Drive, tout ça. Mais du coup, je lui envoie les 3 prods sur lesquels il a accès. Je me souviens, je lui ai dit quoi ? Salut man, j'ai bien rebossé mon style. Vas-y, check ça. Je ne sais plus, je lui ai dit quoi exactement, mais c'était un truc comme ça. Et là, les 3 prods sur lesquels il a accès, il kiffe. Les 3, il m'a dit bloc. J'ai dit ok, là c'est chaud. Tu vois. Et dedans, il y avait la prod de Festival de Rêve. Sûr. Il y avait la prod des Festivals de Rêve et la prod 60 années, elle est arrivée moins d'un mois après.
Ok.
60 années, elle est arrivée moins d'un mois après. C'est un peu le même style de drum, tu vois.
Ouais, tout à fait.
C'est dans la même période. Et puis voilà, hein. Je me souviens de m'être inspiré d'un son pour faire Festival de Rêve. Je sais plus, c'est CQFD ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais que c'est prod by Tommy. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit, mec, ce son-là, il m'a inspiré à faire Festival de Rêve, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, c'est fait par mail. Hein. Mm-hmm.
Mais par mail et en même temps, par le souci chez toi d'essayer de, tu vois, de capter, d'étudier, tu vois, ce qui pourrait convenir à Damso. Et aussi, c'est ce que tu disais. Tu disais, j'ai retravaillé mon style. C'est-à-dire que d'être soucieux de ton style aussi, quoi.
Ouais.
De trouver le juste milieu, quoi.
Ben c'est ça, en fait. Je voulais garder ma patte. Et à ce moment-là, je pense que j'ai créé une patte à ce moment-là, sans le savoir, vu que... En fait, même quand j'essaye de faire quelque chose, de m'adapter, je fais toujours à la même manière, mais sans forcément le faire exprès, tu vois. Du coup, c'est bien, tu vois.
La mort. Une vie. Tout chaîne en or, bourré à
prod de TXV, carrément, je l'envoie pas longtemps après ça. C'était que dans la même période, ouais, quasiment, ouais. Tu vois. Et j'ai dû l'envoyer la prod 60 années en avril, TXV en mai, et puis...
Et après, c'est lui qui a fait son choix pour les sortir à tel ou tel moment.
Mais non, TXV, je l'ai envoyé en avril, je me souviens. Ouais, il a fait son... TXV, il est sorti comme ça. Donc voilà.
Et donc, je disais, il y a un autre artiste, c'est Laylo. Pour qui tu produis trois morceaux sur Raw et un sur Raw Z. Et il y a un truc que je trouve intéressant sur les prods pour Laylo, que ce soit Avenue, Pourquoi tu m'intéresses, c'est que d'un seul coup, c'est des basses saturées, c'est des textures plus crades.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est des trucs que, sur lesquels vous échangez, que lui te demande, ou c'est parce que tu as cette démarche d'essayer de capter déjà peut-être un délire digital, etc. chez lui? Comment ça se passe?
Un peu des deux. Mais je me souviens que sur Y2, il m'a dit « sature plus la basse », tu vois. C'est lui qui m'a demandé de la saturer comme ça. Si je dis pas de bêtises, il m'avait demandé de changer un instrument. C'était pas ça l'instrument de base. Avec les loups, ce qui était cool, c'est que j'avais encore une autre touche. Je pouvais aller encore ailleurs. Moi, j'aime trop la musique. C'est-à-dire, j'explore, tu vois. Avec chaque artiste, je peux avoir un style différent, tu vois. Genre, avec chaque artiste, je peux m'adapter, mais en gardant un côté singulier. Et Pourquoi tu m'intéresses, à ce moment-là, c'est de mes préférés, je m'en souviens. Pourquoi tu m'intéresses, sûrement pour une photo posée sur internet. Je peux pas lui briser le cœur, mais j'ai quatre l'heure. Je te cache l'heure. 2018, je suis phénomène. Big up à ceux qui m'ont emmené. Les gens vont peut-être me croire ou pas me croire, mais à la base, il y a une songwriter de Young Tech qui avait fait un truc dessus. Young Tech avait kiffé cette prod.
Chambé.
Donc déjà aussi, ça m'a...
Bah ouais.
Ça m'a conforté dans l'idée que cette prod était... De manière, je la kiffais trop. Et Laylo, comment il a posé dessus, j'avais... C'est tombé. J'avais trop kiffé. J'avais même plus kiffé que Y2, tu vois.
Alors moi, tu vois, tu t'en suis deux. Moi, c'est la troisième, c'est Avenue, que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a cette rythmique dancehall et en même temps cette ambiance très trap d'Atlanta, tu vois. C'est cette espèce, tu vois, de synthèse des deux, je trouve ça intéressant sur ce morceau-là.
Avenue, j'ai pas fait toute la prod, c'était avec Joe Scourez, Mingo et Laylo lui-même.
Ok.
Et moi, je me souviens, j'ai reçu des pistes en pagaille. Et genre, le son, il n'était pas forcément... Je sais pas comment dire. J'ai fait tous les arrangements, j'ai rajouté des basses, j'ai flippé les samples, j'ai fait en sorte que le morceau il ait une structure et qu'il soit vraiment audible d'un auditeur lambda, tu vois. Et je crois c'est à la base c'était une guitare, je crois Laylo, il a rejoué un piano lui-même. Et puis il y avait des rythmiques, je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur ce son parce que franchement pour moi faire les arrangements sur un morceau c'est même plus dur de composer, tu vois. Rendre vraiment un morceau de base qui est pas forcément exploitable. Le rendre vraiment bien, c'est vraiment un taf de fou.
Bien sûr.
Et voilà, je me souviens qu'on a fait un taf d'équipe en vrai. Et ouais, ce son-là, je le kiffe aussi.
Tu parlais du fait que un songwriter de Young Thug avait écrit sur une des prods, justement. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on voit aussi ton nom apparaître sur les crédits d'artistes américains, alors qu'ils sont peu connus en France. Des gens comme Wave, comme Joe Truffant.
Ouais.
À quel moment t'as ce truc de te dire moi aussi je peux le tenter aux États-Unis quoi?
En fait, à la base, je l'ai toujours tenté aux États-Unis. Je me souviens, la première prod que j'ai envoyée, c'est un rappeur, il s'appelle AVLMKR. C'est un quinri. Je me souviens, ma troisième prod que j'ai fait de ma vie, je dis yo bro, j'écris en grosses lettres, ouais.
All caps.
Ouais, et je me souviens, j'avais mis ma prod sur Hulkshare, un truc, je lui avais envoyé un lien. Dès le départ, moi je voulais placer les quinri, tu vois. Dès le départ, et j'avais fait des sons avec d'autres quinri et tout, entre-temps. Beaucoup de sons un peu DJ Mustard, tout ça, avec les mecs de LA. Mais ouais, depuis le début, en vrai, je veux placer les quinri, tu vois. Et le premier son qui sort vraiment et qui me donne un peu d'exposition, c'est Sash, Prince. Et apparemment, le son, quand je suis allé à New York, les mecs m'ont dit, ouais, Sash, il avait un buzz à New York, ton son, on l'entendait, tu vois. C'est sur SoundCloud, et je crois qu'il avait été jusqu'à 500 000 écoutes, tu vois. Mais c'est des écoutes SoundCloud, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pub, de je ne sais quoi, ça ment pas, tu vois. Donc on m'avait dit comme quoi il avait vraiment un buzz, et suite à ça, Wave m'a contacté, il avait kiffé, il a vraiment trop kiffé ce son. Il faisait que de me demander des prods comme ça, et puis au final, Wave, c'est un mec avec qui j'ai fait plus de 40 sons. Il y en a plein qui ne sont pas sortis, c'était censé être mon gars avec qui j'évolue au State.
Ouais.
Mais les choses ont fait que le frérot, il a pas totalement sorti les trucs. Il a sorti quelques sons, mais voilà quoi. Il n'est pas monté comme il aurait dû monter alors qu'il était super bien parti avec On The Spot. Catch your boy, he whipping in the line. Pull up with the coupe, don't got no time. I looked at my wrist, it cost a line. That bitch wanna fuck me on the spot.
On arrive en 2019, t'es un peu moins présent sur des projets d'envergure, on va dire. Mm-hmm. Mais tu places quand même pour Chilla, Caballero et Jean Jass, PLK toujours. Mm-hmm. Moi, il y a une production en 2019 que je trouve intéressante. C'est pas pour un artiste français, c'est pour un artiste espagnol.
Ouais, Morad.
Aguatando.
Ouais.
Pourquoi, et tu, je pense que tu sais pourquoi peut-être je te parle de cette prod-là.
Je sais.
Parce qu'on est en 2019 et c'est déjà un morceau drill.
C'est un morceau drill, évidemment. Jeune avant-gardiste.
Alors, 2019, pour ceux qui suivent ce qui se passe à New York, il y a déjà effectivement ce phénomène drill, incarné par Pop Smoke, mais pas... Oui, évidemment. Non, mais je parle vraiment de cette drill. Tu vois, voilà. Repassé par Londres et tu vois la forme qu'elle a aujourd'hui. Mmh. Évidemment, la drill est là depuis à Chicago depuis le début des années 2010. Mmh. Évidemment, avec Gerbo, avec tous ces mecs-là. Mais dans la forme, on est vraiment sur cette drill de fin des années 2010. Ouais. Repassé par Londres et qui arrive à New York avec Pop Smoke, etc. Donc là, toi déjà, tu comprends qu'il se passe un truc.
Moi,
quoi.
Cette prod, je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai retrouvé le FLP il n'y a pas si longtemps. Cette prod, je l'ai fait en décembre 2018.
Ok.
J'ai retrouvé le FLP là, il y a 2-3 jours.
Ok.
Et à ce moment-là, j'écoute juste des Londoniens. Genre vraiment, je commence à écouter un peu les mecs de là-bas. Et. Cette prod-là, je n'ai même pas fait exprès vraiment de la faire en drill. C'est juste, je la voyais pas en hi-hat droit, tu vois. Je voulais qu'elle bouge un peu plus.
Il fallait une chaloupe dedans, quoi.
Voilà. Et j'ai fait écouter à Morad. Il a direct kiffé. J'ai fait une session en studio avec lui. On avait fait 200 ce jour-là. Et celui-là, il est sorti. Et...
T'as été en Espagne, du coup, c'était lui qui était ici?
Non, il était ici.
Il était ici, ok.
Il était ici. Que yo nunca salió del guero, el guero tampoco salió de mí. Habláis pero solo soy embustero, así que iros de aquí. Yo nunca me creí el primero, eso tú ya lo puedes ver. Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder.
2020, il y a un album évidemment très important, qui est l'album Calf de Damso. Donc ça fait un petit moment maintenant que vous vous connaissez avec Damso. Comment tu arrives à travailler sur cet album-là? Ou pour le coup, t'es dans une autre configuration de créativité, quoi.
Mmh. Bah, franchement, avec Damso, ça a été super fluide. Déjà, à la base, faut savoir que on est resté une semaine en session studio, tu vois. Mais à la base, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu juste pour faire une session avec Damso, parce que j'avais jamais fait de session avec Damso.
Tout s'était fait à distance jusque-là.
Et du coup, moi, je suis venu juste pour une journée pour Adamso et Prinsley, tu vois. Et au final, on a fait 911 et on a commencé MEVTR aussi. Et donc, voilà, le courant, il est trop passé. Du coup, à chaque fois, je l'avais demandé à Prinsley, est-ce que je peux revenir demain, tout ça. Il m'a dit, je vais voir, machin. Le lendemain, du coup, je ne suis pas venu parce qu'ils ont fait un son avec Fally. Mm-hmm. Mais le surlendemain, je suis revenu et tout, pour tout le reste de la semaine, c'était trop lourd. Et en studio, vraiment, c'était la fête un peu, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer.
Il y avait une espèce d'engouement, d'enthousiasme collectif de faire du son ensemble, en fait.
Tout le monde était dans la même énergie.
Ouais.
Tout le monde était... Je ne sais pas comment t'expliquer. Même Damso, tu vois, il y a certains artistes qui vont se mettre un peu plus haut que toi, tu vois. Non, tout le monde était pareil, y compris Damso, tu vois, genre... C'était juste trop bien.
Est-ce que c'est pas parce que Damso, il a aussi été producteur et qu'il comprend aussi les problématiques dans lesquelles vous êtes?
Mais lui-même, Damso, il avait ramené son synthé. Il jamais avec nous, tu vois.
Ouais.
Donc, je pense aussi. Je pense aussi, ça en fait partie. Mm. Donc,
Toi qui est comme beaucoup de producteurs de cette formation de débrouillard, de bidouilleur, tu vois, d'apprendre à faire du son tout seul, soi-même, tu vois. Est-ce qu'être dans une dynamique collective où vous faites presque du bœuf de musicien, ça change la donne et il faut s'adapter, savoir trouver sa place, savoir quel est justement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais par exemple avec Zekpi, quels sont ses atouts, ses fortés, tu vois, qu'on peut mettre en avant. Est-ce que ça change un peu la dynamique en tant que musicien?
En fait, il faut savoir qu'est-ce que tu peux apporter sur le moment et il faut être vif. Donc moi, ça veut dire quand j'entendais un son qui commençait, je voyais ce que je pouvais apporter en drum. J'ouvrais mon PC, je mettais mon casque, je me calais sur le BPM, je faisais les drums pendant que le truc était en train de tourner. Et je dis, regardez, j'ai fait ça. Vous aimez bien ou pas? Et j'ajoutais des éléments mélodiques, des petites lits, des petites... Voilà, j'essaie d'ajouter ma pierre à l'édifice. Et puis, à d'autres moments, quand je voyais que ça bloquait au niveau de la mélo, bah, les gars, j'ai des petites mélos là, si vous voulez. Life. Je jouerais MVTR, ça s'est fait comme ça. Okay. MVTR, la loupe, elle s'appelle... Non, c'est Life. La mélodie, elle s'appelle Lil Bix. Je l'ai fait dans le train en allant à Bix, tu vois. Et j'ai préparé en mode... OK, ça pourrait peut-être passer et tout. Mm-hmm. Et du coup, ça fait la mélodie du piano, Life, tu vois.
OK.
Mon frère est born, il n'a plus qu'un œil. Suffit d'un seul à dire l'illuminati. Ton âme un jour, faudrait que tu me la prêtes. Que je trouve sa sœur, la mienne, a perdu la vie. Tu devrais fermer ta...
En vrai, mes atouts, quand j'étais là-bas, c'était plus... Je savais que dans la création... général, c'était les drums. Et quand ça bloquait, j'essayais d'apporter la petite touche de mélodie, parce que Syndex et Paco, c'est pas non plus des mecs qui viennent à la base du rap, tu vois, et on bossait beaucoup avec eux. Donc, inspiration débordante quand il s'agissait aussi de rap, mais d'autres trucs.
Oui, d'une autre approche, quoi.
De 911, Syndex, il a trouvé ça, etc. Mais du coup, il faut savoir quand est-ce que tu peux apporter, tu vois. C'est vraiment... tu vois, t'analyses comment la session elle se passe, mais pas en mode trop analyste, tu vois, c'est juste...
Oui, il faut quand même vivre le truc, quoi.
Voilà. Pas trop intellectualiser. En fait, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que je savais que, par exemple, mes mélodies, elles pouvaient plaire à Damso, mais je ne les ai pas proposées le premier, directement, tu vois, dès qu'on est arrivé. Parce que il faut savoir, c'est une question de timing. Et même quand t'envoies des prods, tout ce que tu fais, c'est une question de timing, en tant que beatmaker, même dans la vraie vie, tu vois. Donc, c'est ça, tu vois, il faut... Le timing, c'est trop important.
Bien sûr. Avec le recul, maintenant, c'est quoi la production préférée à laquelle tu as participé sur cet album?
911.
Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est la prod la moins rap possible d'une certaine manière, quoi. C'est de la pop. On est presque sur de la pop synthétique des années 80. C'est complètement autre chose, quoi.
C'est justement ça que je kiffe. Justement ça que je kiffe. Et c'est un peu un ovni dans la discographie que j'ai, tu vois. Donc, ouais, franchement, même le son en global, ce qu'il a fait Damso dessus... Oh, ça m'a trop choqué, gros. Ça m'a trop choqué. Puis je me souviens, il est là, tu fais la prod, il est déjà là, à côté de toi, en train de faire des petites vibes, en train de chanter le truc, t'as l'impression que t'es déjà sur Spotify. Ça m'a marqué. La même voix, on va dans la cabine. Le mec, il passe jamais plus de 20 minutes dans la cabine. Il fait ça, il fait son truc, il plie ça. Allez, c'est bon. Tu vois. Non, franchement, 911.
Je me rends en ligne, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là.
2020, moi, il y a une production que j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est pour PLK, c'est la production de Calm. Parce qu'on revient à ce truc très trap d'Atlanta, etc. Mais...
Ouais.
Et je trouve qu'on parlait de singularité, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose de très original dans les sonorités, le synthé un peu sautillant, le travail sur l'espèce de boucle de sample qu'il y a derrière. Tu vois, on parlait de singularité, de trouver sa patte, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette prod-là.
J'aime
quoi.
Trop cette prod.
Non, bah, c'est cool. trop, on est en phase, là, tu faisais cool.
Et je suis grave content que PLK, il ait pris cette prod. Shalat à lui, d'ailleurs. Franchement, c'est juste ce que j'aime à ce moment-là, tu vois, genre... Je veux faire du tabassage, je le fais à ma manière. PLK, il apprend. Je sais même pas quoi te dire. J'étais juste content.
Ouais, c'est cool.
Et
c'est...
je pensais même pas qu'il allait. Moi, à la base, quand il a posé sur cette prod, PLK, il m'a pris tellement de prod et il a fait des sons, il les a pas sortis. Même il y a plein de sons, je suis sûr, je les connais. Là. Tu vois. Et moi, à la base, je pensais même pas qu'il allait sortir ça dans son album. Tu vois. Et ça m'a choqué qu'il garde le son, parce que le son, je crois, il s'est fait peut-être en janvier ou février. L'album, il s'est sorti peut-être à la rentrée. Je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti.
Oui, Ena, ça sort de mémoire fin août, début septembre 2020, quelque chose dans le genre. Ça, ça sort à la rentrée, effectivement.
Je ne sais plus. Ouais. Franchement, je n'arrive pas
à me souvenir. De mémoire, mais c'était par là. Ouais.
Mais je sais qu'il s'est passé quelques mois avant la sortie du son. Et j'étais content qu'il garde le son, justement.
Calme comme le prix de l'eau, je grimpe comme le prix de l'or, des terres, je suis debout de l'eau. Remballe tes Pénélope, agrandir la famille, mon business développe. C'est pas tes ménics, sinon je te dirais bye bye, bande à Ménélique. C'est vrai, ma parole est d'or comme CD.
Il y a un truc que je trouve là sur la bascule vers 2020, Tout à l'heure, on parlait de ce motif musical des Bells qui revenait souvent, mmh. alors que tu travaillais avec des effets, etc., mais qui était assez fréquent. Mmh. Et je trouve que tu quittes de plus en plus ce truc-là, parce que tu commences à t'en débarrasser.
T'es
d'accord avec ça, que t'as
remarqué? Ouais, ça change un peu.
Ouais, t'as eu un truc conscient en disant, j'ai peut-être un peu fait le tour et...
Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Enfin, je me dis, je veux pas faire tout le temps la même chose. Mmh. Même si je kiffe, hein, demain, je peux en refaire une. Mais à ce moment-là, vraiment, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'évoluer musicalement, je ne peux pas rester bloqué sur un truc.
Et on revient à le tweet que je citais aussi tout à l'heure, c'est que cette critique que tu avais de manière générale, tu as eu ce truc d'autocritique aussi, peut-être de toi-même, de dire, bon, en fait, il faut que je passe à autre chose, quoi.
Ça s'est fait, franchement, ça s'est fait naturellement. Ouais. En fait, juste, on a fait 15 fois la même mélodie, et des prods belles et tout. Tu vois mon PC, t'entends juste ce qui est sorti. Hein. J'en ai 15 000. C'était une facilité, tu vois. Et moi, je reste pas dans ma facilité.
Je trouve que le combo Bells Halftime, à un moment donné, c'est devenu le nouveau piano-violon du rap français. Tu vois ce que je veux dire? Comme on avait les propres piano-violon pendant un moment, là, les Bells Halftime, j'ai trouvé que pendant un moment, on avait que ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour ça, moi, j'ai... Et puis, en fait, j'ai un truc aussi, c'est que quand je fais quelque chose et qu'après, je vois tout le monde le fait, c'est bon.
Bah oui, t'as envie de faire autre chose aussi, quoi.
Bon, les gars, je vous laisse. Ça m'a fait ça avec le Brésilien. Les sons brésiliens, j'ai vu que tout le monde a commencé à faire des sons comme ça après Chex V. J'ai dit, bon, ok, vas-y, gardez ça, moi, je vais aller sur un autre truc. La drill, pareil, je dis, ok, les gars, gardez ça, moi, je vais aller autre part. En fait...
Oui, c'est vrai qu'au final, t'as pas fait beaucoup de drill, en fait.
Non. J'aime bien la drill, mais en fait, si j'avais dû en placer beaucoup, je l'aurais fait au début. Oui, mais après, je sais pas. Quand tout le monde fait quelque chose, ça me chauffe plus, tu vois. Ça me chauffe plus. C'est pareil pour l'afro, tu vois. Le genre afro qu'ils ont bas, tu vois, avec Loin de moi. Quand tout le monde a commencé à en faire, ça m'a plus intéressé. Là, j'en refais parce que je kiffe, mais je voulais même plus en faire. On m'appelle, on me disait, fais-moi un son comme Loin de moi. Je dis, non, les gars, je fais plus d'afro, les gars. Je ne parlais pas de ça.
Loin de moi, qui est un morceau de NASA.
Tu vois, je suis un peu têtu. Je suis comme ça. D'ailleurs, RDS, il m'a toujours appelé Benji le têtu. Et c'est ma personnalité, tu vois. Donc, voilà.
Ouais, tu sais ce que tu veux et je pense que c'est important aussi quand on est créatif. Des artistes dont on n'a pas encore beaucoup parlé, avec qui tu collabores maintenant depuis un petit moment, depuis Double Hélice 3, c'est Kaba et Gigi. Et sur beaucoup de leurs disques depuis, tu sors des choses. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que tu essayes de cibler. Et je trouve que dans les prods que tu vas leur proposer ou peut-être qu'eux choisissent, il y a effectivement quelque chose qu'on ne trouve pas chez d'autres artistes pour lesquels tu places. Tu vois, ça va être des choses décalées, parfois enjouées, tu vois.
Bah, déjà, Kaba Gigi, je les kiffe parce qu'ils vont toujours prendre des prods que je peux placer nulle part ailleurs. Tu vois? Et qui va prendre une prod comme un cadeau à ce moment-là?
Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau.
Même le monde a changé. Tu vois la prod, que c'est? Personne va prendre ça, tu vois, à la base. Même moi, j'étais choqué qu'ils prennent ça. Il y avait un peu des sonorités un peu l'illusiver.
Exactement, ça. C'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser.
Moi, à ce moment-là, je m'inspirais beaucoup de ça. Et j'étais vraiment choqué qu'ils aient fait un son dessus, tu vois. Et à ce moment-là, déjà, je trouve qu'en Belgique, ils avaient une plus grande ouverture d'esprit qui me permettait de placer des prods un peu plus quinri dans les drums. Avec eux, je peux mettre ma patte de bounce, tu vois, et tout. Un peu comme avec Polak, tu vois. Et puis voilà.
Parce que peut-être ils ont une approche du rap, justement, où ils vont chercher les placements, etc. Ils ont ce côté rappeur qui veut faire des rimes, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que dans la dynamique, dans le groove qu'ils vont chercher dans les prods, c'est peut-être ça aussi qui les intéresse, du coup.
Moi, je pense que c'est juste une question de feeling, tu vois. Ils se faisaient tabasser par des prods comme ça, ils posaient, tu vois. Mais c'était très sélectif, attention. Kaba, moi, Caballero et Jean Jass, je me souviens, je suis déjà allé, ils m'ont traumatisé des fois. J'arrive au studio, je suis là, je fais écouter 15 prods, ils en bloquent peut-être 8, 9. Ouais, frérot, désolé, on n'a gardé aucune prod. Je pense que c'est la faute de Gigi, parce que Gigi, il est très sélectif.
C'est son côté producteur lui-même, c'est pour ça.
Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, c'est des mecs, Kaba Gigi, et à ce moment-là, je m'en souviens, c'était en 2018, je me dis, comment ça, ils ont gardé aucune prod, comment ça? Ils ne savent même pas. Hein. J'étais en mode, vas-y, on va voir. et genre je vais revenir, on va voir, tu vois. J'ai, moi c'est que ça, tu vois, genre compétition. Mm-hmm. Je l'ai pas pris en mode ah ouais, ah, les mecs ils m'ont bloqué. Non,
ouais, tu t'es pas senti snobé, c'est juste non, que tu te dis il faut que je fasse mieux pour les convaincre, quoi.
Gros, j'étais en mode c'est quoi le problème dans les prods là, c'est quoi le problème, il y a un problème si on en garde aucune, j'ai pas fait assez fort. Vas-y, au calme. Tu vois. Et puis après, j'ai replacé pour eux et on a fait finir. J'ai 4 sons dessus, tu vois.
Exactement. On arrive sur les années 2022-2023. Alors, entre-temps, depuis, t'as placé aussi pour Dinos, un moment comme Maman Même avec Dahuzi, Smills, Josué, Slimka. Mais sur, je trouve que peut-être les deux choses les plus importantes que là, t'as fait ces deux dernières années, c'est l'album de Monsieur Nov.
Ouais.
Et justement, le disque Ad Hoc, de Ad Hoc, ouais, qui s'appelle Glow. Parlons déjà de Monsieur Nov, puisque c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, qui en plus est réalisé par Zekpi. Donc, vous êtes un peu en famille. Comment ça s'est passé, justement, le fait d'être complètement toi-même intégré dans la création de cet album-là, quoi?
Franchement, ça s'est fait un peu sur la durée, tu vois. Et ça a été fluide. Genre, ça n'a pas été dur. Ça a été cool. Tous les sons que j'ai fait avec Monsieur Nov, il les a gardés pour son album.
J'en mets.
Donc,
il y en a pas mal, hein.
Ouais, il y en a 6. Et franchement, Monsieur Nov, il sait ce qu'il veut. Je comprends, même le dernier Je t'aime avec Josman. C'est avec lui que je l'ai composé. Il a fait les keys, tout ça. Franchement, plaisir de bosser avec Monsieur Nov. Tu vois, c'est avec le Zeg aussi, tu vois. Franchement, c'est des sessions... super cool, même on n'a pas tout fait sur place. Je lui ai fait aussi écouter des prods, tu vois. Et il en a sélectionné. Sans toi, ça s'est fait comme ça. Une autre, ça s'est fait comme ça. Il y a d'autres prods, je lui ai fait écouter Ne m'oublie pas, mais après, on a tout rechangé. Des prods qui se sont fait vraiment en coprod, tu vois. C'est Love Therapy, le dernier Je t'aime, du coup. Et Fake Love, je lui avais fait écouter aussi, tu vois, pour faire le tour.
Ouais.
Donc, ouais.
Est-ce qu'un artiste comme ça, parce que justement, toi, t'es très branché États-Unis, est-ce que lui, parce qu'il a cette approche très américaine du R&B aussi, ça permet aussi de matcher et de se comprendre et de parler parfois le même langage, quoi? Sur les mélodies,
ouais,
sur...
Ouais, sûrement, mais déjà, Monsieur Nov, il fait des prods.
Oui, bien sûr, aussi, évidemment.
Ouais. C'est trop facile. Monsieur Nov, il est trop fort en prod. Mais genre, c'est pas genre l'artiste qui fait des prods, qui essaye de faire des prods. Lui, il va te dire ça, ouais, non. Déjà, même quand on fait des coprods, il se met pas en mode, ouais, prod by Nov, Benji. Et il s'en fout. Mais il est trop fort en prod. Vraiment. Donc, déjà, à ce niveau-là, après, pour parler, c'est trop facile. Alors,
ouais. Un truc que je trouve intéressant sur les productions sur cet album-là, sur lesquels tu as travaillé, évidemment, c'est qu'effectivement, il y a ce côté très mélodieux, très classieux, tu vois, qu'il a dans sa musique, mais que toi... Alors, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais tu vas me dire si c'était l'intention. Tu arrives à apporter des textures un peu plus crades, tu vois. La guitare déformée de Fake Love, la basse un peu crasse, tu vois, un peu crade de Dernier Je t'aime, tu vois. Il y a des espèces de petits détails, je trouve. Est-ce que c'est toi qui les apportes, justement? Et tu vois, ce genre de petits détails qui permettent, je trouve, de donner un peu de singularité à chaque morceau, quoi.
Bah, ouais, sur Dernier Je t'aime, la prod, ouais, les trucs un peu gras, bah, ouais, tu connais, ça fait partie de moi. Hein. Et bah, la mélodie, par exemple, de Fake Love, c'est une mélodie de Soto, qui est un loopmaker, un beatmaker que j'avais récupéré, tu vois. J'avais utilisé et ouais, il me semble que j'avais ajouté des textures dessus, mais était déjà bien texturé.
Okay.
Mais moi, c'est ce que je kiffe. Donc voilà, tu vois, on a fait ça naturellement. Et puis, Nov, je pense qu'il était dans un truc où il voulait se renouveler. Donc... tomber sur ce genre de sonorité qui lui correspond et en même temps qui apporte quelque chose de nouveau, c'était juste, il a juste kiffé, c'était juste bien pour lui à ce moment, tu vois.
Bien sûr.
Et on s'est bien entendu, et puis voilà.
Et donc, je le disais, il y a un autre disque important pour toi qui est sorti cette année, qui est Glow, avec Ad Hoc. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter Ad Hoc, puisque ce n'est pas quelqu'un de très connu? Comment vous vous êtes rencontrés? Qui est-il, etc.?
Bah, Ad Hoc, à la base, on est dans le même collège, tu vois.
Ok, donc on est encore sur ces proximités de jeunesse, quoi.
Ad Hoc, on était... déjà, je l'avais déjà croisé pas mal de fois dans la ville. Mon premier souvenir avec Haddock, on a fait un foot. Tu vois, mais on se parlait pas trop, mais je voyais déjà que le frérot il pouvait déjà être mon pote, tu vois, je sentais déjà c'était un bon, ouais. Tu vois, on avait pas trop parlé, mais voilà, tu vois, quand tu fais un petit foot déjà, c'est cool. Et après on s'est retrouvé dans le même collège en troisième, et puis c'était le poteau, tu vois. Et puis après on a été au lycée, on se retrouve dans la même classe, donc voilà rien que ça, tu vois, on est en seconde dans la même classe. Et à ce moment-là, il fait pas de son. Hein.
Okay.
Moi, je fais déjà des prods, mais lui, il fait pas de son. Mais on a déjà les mêmes goûts musicaux. Genre, je me souviens déjà chanter, on chantait du Lil Wayne dans la cour de récré au collège, tu vois. Mm-hmm. Des grands mirrors, Bruno Mars, tu vois. Et non, vraiment, c'était le poteau, tu vois. Et puis un beau jour, je vois, il commence à faire du son avec son cousin Lulu. Il dit, toi, tu sais faire ça, toi ? Tu fais du son ? J'étais en mode, ok, bah, vas-y, viens, mec. Genre, viens, on fait du son. Et puis, à la base, on s'est dit, vas-y, on va faire juste un projet. On va préparer un projet. Et puis, après, je me suis dit, vas-y, non. Je vais faire mon label et tout. Je vais te produire. Et à ce moment-là, j'ai quel âge, mais je dois avoir 21, tu vois. Je dois avoir 21. On a commencé à faire du son en 2017. Mais sérieusement commencé. On a commencé en 2019, vraiment, à faire du son régulièrement, tu vois.
Ok.
Et du coup, voilà, ce premier projet Glow, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, mais c'est vraiment que le début, tu vois. Là, on a préparé pas mal de choses pour la suite. Et puis voilà, quoi.
Moi, je trouve que là, on retrouve le côté laboratoire que tu avais eu avec Richie sur ce
vraiment, EP. C'est la partie 2.
Ouais. Parce que vraiment, il y a plein de prods. Sur des intentions ou même sur des réalisations que j'ai pas entendu avant dans ton parcours discographique et que j'entends pas nécessairement aussi ailleurs chez d'autres producteurs, quoi. Ah, donc j'ai vraiment tu vois, je sais pas, le morceau Glow, tu vois, cette ambiance, ouais. Musique classique sur un beat un peu drip, tu vois, il y a plein de trucs, ouais. Comme ça, des espèces de mélanges le morceau, alors je sais pas comment on le prononce, WNT, tu vois,
WNT,
tu sais, il y a des espèces d'effix, tu sais pas si c'est, ouais. Des percus, des FX, des trucs mélodieux. Enfin, il y a plein de...
Petite lead bizarre, là.
Exactement. En fait, d'un seul coup, tu sens que c'est... Ouais, je parlais de laboratoire, idée d'expérimentation, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Personne tient le contraire. Depuis, c'est puissant. Maintenant que je parle de faire, ok, remplir le pack de minou, il faut le faire. West, no time, retiens...
Projet-là, en vrai, on l'a fait... On a un peu rallié des morceaux, comme ça, tu vois. Mais je voulais vraiment qu'il y ait une cohérence entre les morceaux. On a pris les morceaux qui, on va dire, qui se ressemblaient un peu. Et après ça, on a fait des transitions. On voulait vraiment avoir une DA, tu vois, pour ce projet. Où vraiment, tu rentres dans l'univers et de A à Z, tu te fais tabasser. Genre, vraiment, tu t'en prends plein la gueule de partout, tu vois. et du coup, voilà. Avec Haddock, on était dans ce truc-là. Après la suite... Je veux pas trop teaser, mais elle sera très différente.
Ce sera cette année ou c'est...
Ce sera cette année.
Ouais, vous laissez pas forcément plus de temps.
Futur proche.
Alors, on va conclure justement sur cette question de futur proche. Et c'est quoi un peu tes envies pour l'avenir ? Est-ce que continuer à développer des choses avec Haddock, peut-être trouver d'autres artistes justement pour lesquels affûter ton rôle de réalisateur, ouais. Accompagner des producteurs ? C'est quoi un peu
Ma priorité déjà, c'est Haddock. Vraiment réussir à l'installer un peu dans le game, tu vois. Vraiment qu'il soit dans le paysage. Et voilà, ça va bosser sur ça. Et c'est ma première priorité. Après, moi aussi, je veux faire mes placements de mon côté, tu vois. Et signer d'autres artistes, tout va dépendre de comment on avance avec Haddock, tu vois.
Bien sûr.
Un artiste, déjà, c'est vraiment beaucoup de travail. Et je l'ai ressenti... on va dire sur... je l'ai ressenti sur ma productivité au niveau des prods, tu vois. Quand je suis en mode producteur, je fais pas de prod. Des fois, j'ai un peu de temps, mais il faut être à l'affût sur trop de trucs. Je peux pas m'isoler à faire mes prods parce que je vais devoir répondre à un tel. Et quand je suis dans le rush, tu vois, par exemple, on a fait une release party, c'est compliqué de faire tout ça en même temps. Donc, moi, mon but, c'est de réussir à faire les deux en même temps, tu vois. Et autant réussir avec Haddock que les placements à côté. Mais si je dois choisir entre les deux, je prends ma réussite avec Haddock, tu vois, directement. Donc, voilà, ça passe avant tout, tu vois. On veut faire des shows, on veut faire des... Tu vois, c'est ça le rêve. En plus, c'est le bro, tu vois.
Normal.
Et je sais pas si t'as vu dans les clips, toujours les mêmes gars, mm-hmm. toujours la même équipe. On a la même équipe, une bande de potes, en vrai, mm-hmm. tu vois. Donc, si Haddock il réussit, je sais très bien, le reste, ça va créer que des bons souvenirs, tu vois. Donc voilà, c'est ça le but.
Dernière question pour conclure cet entretien que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro devant lequel tu es. On a balayé ta discographie de tes débuts aujourd'hui. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui te connaît pas, qui connaît pas ta musique, et tu devais lui citer une prod sur laquelle tu te dis que la touche Benjay, c'est ça, ce serait laquelle?
Franchement, je sais pas si je lui dirais la touche Benjay, c'est ça, parce que moi, j'ai plusieurs touches.
C'est vrai.
Je sais pas vraiment c'est quoi ma touche principale, parce que vraiment, mes 60 années, parce que c'est vraiment une des prods qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai fait. Et ça a été longtemps ma prod préférée.
Okay.
L'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère, honnêtement. Puissant un chien sur une meuf plus âgée qu'il avait déjà fait, tant que j'ai fait semblant de l'avoir fait pour faire le grand. Pourtant j'étais petit, après j'ai compris que quand je serai grand, je regretterai tout ce qui s'est passé, car finalement...
Merci beaucoup.
Merci
Benjay d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de BPM, le podcast de Bouscapé consacré aux beatmakers. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes et évidemment les nouveaux à venir. À très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.